Mais, chers auditeurs, ne serait-ce pas le moment du jeu? Sortons le Trivial Poursuite de 1988 du coffre et filons rejoindre Juliette et Camille à Paris.
Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous sommes le 20 mars 1988 et aujourd'hui, nous avons Camille comme candidate pour le Trivial Poursuite.
Bonjour, salut.
Bonjour Camille. Alors Camille, qui a consacré une chanson aux anarchistes Sacco et Vanzetti, exécutée en 1927 aux États-Unis? Bravo. Est-ce que vous avez la chanson, Camille?
Here's to you, Nicolas Hénbart.
Exactement. Here's to you.
Here's to you, comme... Oui, ma mère est anglaise, du coup j'ai l'accent prononcé, excusez-moi.
Ah, oui, mais ça s'entend, Camille. Ça s'entend. Bravo, vous avez remporté la première question.
Merci.
Alors, qui fut l'acteur fétiche de la caméra invisible?
J'en ai aucune idée, Juliette.
Eh bien, je peux essayer de vous la faire deviner avec des... Non, vous avez le droit à des jokers. Vous avez le droit au joker... mot de passe, ou au joker rébus, ou au joker initial.
Je vais demander le joker mot de passe, s'il vous plaît.
Mot de passe. Très bien. En sachant que nous cherchons quelqu'un, quoi. Donc,
bien sûr.
Très bien. Chirac.
Jacques.
Je te dis que c'est validé pour le prénom. Hein.
Très bien, merci.
Nous passons donc au nom de famille. Huile.
Ce n'est pas Jacques Vinaigrette, ça, hein, on est d'accord.
Non, c'est long.
Ville.
Dites quelque chose, Camille.
Oui. Vraiment, excusez-moi, j'ai pas de ville, très bien.
Beurre.
Graisse.
Presque.
Gras.
Oui. Bon, je vous l'accorde, c'était Jacques le Gras.
Merci. Peut-être que j'ai un demi-point du coup pour cette question.
Vous avez un demi-point.
Très bien.
Alors, il vous reste les catégories médias-presse, les catégories culture.
Médias-presse.
À qui appartient le tigre que l'on mettait dans le moteur?
Des gens peu soucieux de la cause animale.
C'est pas du tout une catégorie médias-presse.
Je ne sais pas, Juliette.
Alors, c'était Esso, la marque de...
Ah oui, très bien. Donc, en fait, je pense que c'était une blague par rapport à la publicité, je pense.
Exactement, voilà. Mais ça doit être publicité, média, les petites initiales PM, autant pour moi. Alors, que choisissez-vous? Il vous reste culture. Parfait. Vous allez toutes devoir les faire, Camille. Ce n'est que retarder le mal. Culture. Dans quel film Christophe Lambert est-il l'amant de Catherine Deneuve?
Le dernier métro. Je ne sais pas du tout.
Non, c'était le film Paroles et musique.
Ah oui, bien sûr.
Au grand succès au box-office.
Absolument.
Quel est le vin qui a été surnommé Sato Yupi?
Je ne sais pas. Juliette, je ne sais pas.
C'était le Cahors.
Oh, très bien.
Voilà. Et la dernière question, quel est le nom de la dynastie régnante au Royaume-Uni? Facile, celle-là, vous l'avez. Vous l'avez chez vous? Vous l'avez, Camille? Camille, le suspense.
Oui, non, mais je vais prendre un joker.
Rappelez-vous
initial
de tous ces secrets d'histoire. Un joker
initial, s'il vous plaît.
un joker, vous voulez un rébus, initial ou un
Une
mot de passe?
initiale, une initiale.
Initiale, le W.
C'est Westminster.
Non,
C'est
Camille.
Windsor,
C'était les Windsor.
je l'avais sur le bout de la langue. Excusez-moi.
Oui, je le sentais, Camille. Mais ce n'est pas grave, vous remportez cette manche avec un point et demi.
Très bien.
Attendez. Oui, un point
Non,
et demi.
j'avais. Oui, d'accord. Bon, très bien.
Oui.
J'ai eu Jacques Legras, mais j'ai eu d'autres choses, non, quand même, avant. J'ai eu John Baez.
Oui. Et c'est tout, Camille. C'est tout.
Flûte.
Bon, après, voilà, l'année 88, c'était que. Voilà. C'est une bonne année. Voulez-vous une autre page de questions?
Ah oui, absolument. Mais par contre, je
Oui,
vais
si.
sélectionner que les questions divertissement. Je vous le dis tout de go.
Alors, c'est parti, une question de télévision. Qui produisait les émissions Bienvenue?
Michel Drucker.
Non, c'était Guy Béard.
Ah, d'accord.
Le Guy
Guigui.
Béard. Guigui. Nouvelle question. Quel a été le rédacteur en chef fondateur de Pilote?
C'est le mec de Astérix.
Tout à fait.
Comment il s'appelle?
Allez, vous pouvez l'avoir, Camille.
Astérix par Goscinny.
Oui.
Merci. Mon
De
joker dans
son prénom?
la René.
René Goscinny, bravo Camille, vous remportez
Waouh.
un point.
Merci de joker dans la pièce.
Toute seule comme une grande. Question suivante, une question culture.
Absolument.
Dans quelle ville travaille habituellement Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills?
Dans quelle ville?
Oui.
Beverly Hills, c'est.
Alors attendez, parce que j'ai également quelqu'un du public qui essaye de répondre, c'est moi. Je crois que tu as dit une mauvaise réponse.
Je sais pas où c'est Beverly
T'as dit quoi, maman? Bon, on n'aura plus de
Hills.
réponse.
Je sais pas où c'est Beverly Hills, Juliette, j'ai
Mais
honte.
tu n'as pas à le savoir parce que c'est un piège.
Bien sûr, bah, il vient de New York.
Non, il
Ah non.
venait de Détroit.
Detroit.
Detroit, yes. Detroit. Mais ne perdez pas espoir, Camille, car vous avez une nouvelle question. Qu'est-ce que l'audimat?
Est-ce que c'est ma question, voilà, moi je vais faire une sous-question à l'intérieur.
Oui,
Est-ce que
alors.
c'est vraiment le nombre exact
Non,
d'utilisateurs
ne
qu'il y a dans
cherchez pas compliqué, n'oubliez pas que nous sommes en
la... Ah
88
non, bah
et que le terme audimat pour nos chers spectateurs est peut-être encore un terme un peu nouveau.
c'est le nombre de téléspectateurs qui regardent un programme.
Oui, je vous l'accorde, c'est un système de mesure de l'audience télévisée, c'est correct,
Mais
c'est
voilà,
correct.
et moi c'est ça ma question. Est-ce que
Oh.
c'est cette histoire de boîtier, par exemple, parce que j'ai cru entendre que des gens avaient un boîtier chez eux pour calculer, enfin, en tant qu'utilisateur test en fait. Parce qu'en fait, ils ne captent pas, je crois, tout le monde et tout ce que tout le monde regarde. Juste c'est par rapport à des indices
Vous vous
d'utilisateurs
êtes fait
tests sur
avoir par des
Internet.
théories du complot, Camille. Vous tombez sous aucun prétexte dans ces croyances absurdes.
Très bien. Ok. Je remets
Ah
en
ben
cause
vous.
mes croyances. Continuez.
Et vous avez 2 points en tout cas à votre actif. Et nous passons à la question suivante. Qu'est-ce qui est fou, vert et fait son trou aux États-Unis?
Un petit pois. Qu'est-ce qui est vert et qui fait son trou aux États-Unis? Rond
Oui,
vert.
c'est encore une référence à une publicité.
De géant vert, je ne sais pas.
Non, c'était la marque Perrier. Voilou. Dernière question. Que cherchent Lino Ventura et Bernard Giraudot dans le Russian?
Un ruffian, ce serait trop simple. Du coup, je vais dire au hasard un coffre-fort caché sur une île déserte au milieu de l'océan Indien.
Qu'est-ce qui pourrait être
Ah,
accueillie.
non.
Non, que pourrait contenir ce coffre-fort, par exemple?
Beaucoup d'argent.
En quelle matière?
En
Bravo Camille, vous gagnez 3 points. C'est impressionnant. Vous vous êtes entraînée avant de venir?
non, moi, vous savez, j'ai juste baigné dans un grand bain de culture depuis ma
C'est
tendre enfance,
l'instinct.
bien sûr.
C'est
Alors,
l'instinct.
merci.
Super. Voulez-vous continuer, Camille?
Absolument, mais que avec des catégories rigolotes. On arrête
Ah
la
oui, bah si.
publicité.
Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'arrête pas de se marrer là. C'est je fais que la catégorie rigolote,
Mais il n'y a pas
hein.
de catégorie chanson encore un prochain point.
Bah, en fait, je me suis un peu trompée. Ah bah, tenez. Une question chanson. Quelle est la chanson de Renaud qui a inspiré le titre du premier film de Michel Blanc?
Marche à l'ombre.
Très bien, Camille, très bien. Vous avez 4 points, si je ne m'abuse.
Je suis vraiment une enfant des années 80.
Vite.
88.
Je vous enlève les questions publicité parce que j'ai l'impression que ce n'est pas votre tasse de café, hein.
Non, on peut dire comme ça.
Enfin, ceci dit, vous pouvez peut-être répondre à celle-ci. Quelle banque a pour symbole un lion?
ING Direct Assurance, qui est une banque.
Non.
Non, je ne sais pas.
La réponse était le Crédit Lyonnais.
Ah.
Non,
Est-ce que ce ne serait pas la banque qui parlait? Par hasard. Très bien.
que l'INA?
C'est
Nous recherchons
l'Institut
la
national
signification.
de l'audiovisuel.
Très bien, Camille, vous avez 5 points. Bravo.
Merci.
Camille, j'ai une question cinéma. Vous aimez cinéma?
Oui, comme tout le monde. Réponse des années 80.
Le consommez fréquemment?
Oui, j'aime aller. Non, mais là, on est dans les années 60, hein, mais
Oui, je me rends au cinéma.
me rends en salle, oui, absolument.
Eh bien, voici une question cinéma pour Camille. Quelle organisation maléfique s'oppose souvent à James Bond?
Les nazis, je
Donc, Camille, c'était le spectre.
Ah, mais je sais pas.
Ah, je pensais vous avoir là-dessus, et puis, hop, ça n'a pas, hein. Bon. Je cherche des questions.
Oui, non, mais prenez votre temps.
Qui écrase les prix?
J'essaye de réfléchir en termes de supermarché des années 80.
Tout à fait.
Dans mon baluchon, j'ai sur mon Carrefour, j'ai Prix d'Unique, j'ai Mammouth, ça doit être Mammouth.
C'est tout à fait Mammouth,
Oh là
Camille. Bravo,
là, oh là là,
vous en avez
franchement, tu lui
6
trouves.
points. Bravo, bravo.
Je pense que les auditeurs vont être vraiment impressionnés par ma connaissance de l'hypermarché 80s vintage.
Avons une petite question musique, comme vous les aimez. Où travaillait l'employé de la RATP chanté par Serge Gainsbourg?
À la station des Lilas.
Bravo Camille, 7 points. Comment communique-t-on avec les extraterrestres terrestres dans Rencontre du troisième type?
Avec la bouche, je sais pas.
Non, c'était avec des couleurs et de la musique. Voilà.
Ah, c'est joli, dis donc. C'est
Oui,
joli, hein.
c'est très joli, oui, tout à fait. Ah! Il me semblait, Camille, que vous aviez rédigé un TPE sur la mode en dernière, n'est-ce
Déjà, mes grands centres d'intérêt étaient très dessinés.
pas? Peut-être saurez-vous répondre à cette
J'ai
question.
également écrit une thèse sur le
La question est la suivante.
Mais ça, j'écrivais des rédactions sur la fame à l'âge de 5 ans.
Et il me semblait que vous possédiez aussi un petit livre de style, de différents styles existants.
Un livre
Le
édité.
bobo,
Oui,
le
le dictionnaire du look, bien sûr.
Exactement.
Qui a été plus qu'une bible hein, durant mes années d'adolescence.
Vous avez donc toutes les connaissances pour répondre à cette question.
Pour être une connasse cynique, ouais, absolument.
Oh. Ok. Qui a réinventé la mini-jupe dans les années 60 à Londres?
Marie Kant.
Bravo Camille. Bravo. Et là, vous savez quoi? Vous m'épatez. Car vous venez d'avoir 8 points.
Et Marie Kant qui a donné, qui a inspiré une chanson de Laurent Voulzy. Que bon, je vais vous en donner un petit extrait, mais. Marie Kant, c'est ton histoire que je chante. Voilà.
Merci, Camille.
Et comme quoi, on peut faire de l'art de rien, hein, à méditer aux artistes qui sont actuellement en confinement. Vous prenez un mot au hasard dans un dictionnaire et pouf, une poésie en sort.
Un quelconque événement qui aurait révolutionné le siècle et puis, hop la boum, quoi.
Mm-hmm.
Quel chanteur avait sa famille dans le Loir-et-Cher?
C'est Michel Delpech et j'ai failli le mettre dans une playlist aujourd'hui.
Quelle auriez-vous mise?
J'ai failli mettre le Loir-et-Cher aujourd'hui.
Ah!
Donc, excuse-moi, mais je suis hyper sensible aux coïncidences. Du coup, je suis. Ok. Il faut que je me recentre. Waouh! C'est bon. Continue. Ok, non, deux secondes. Non, c'est bon. C'est bon. Waouh! Ok.
Je me permets de. Aimez-vous Spielberg?
Aimez-vous Spielberg?
Cette question vaut 3 points.
La réponse est wish.
Wish. Eh bien, comment s'appelle le personnage interprété par Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue?
Eh bien, c'est Indiana Jones.
Bravo. Bravo Camille. Je crois que nous donne 9 points.
Eh ben merci beaucoup et peut-être que on peut sonner à la fin de l'émission.
Oui.
Crois.
Ding ding ding.
Ding ding ding.
La fin de l'émission. Nous nous retrouvons à chaque fois que cela nous est permis, même heure, même endroit. Voilà. Pour des questions de toute époque, sur toute thématique.
Eh bien, merci à vous,
Camille,
Juliette,
et bravo à vous.
Pour votre participation. Merci, mais merci d'avoir orienté les questions également. C'est très sympathique de faire un pas de côté par rapport à votre professionnalisme à toute épreuve. Donc, merci beaucoup et bonne écoute, les auditeurs. C'est passé une excellente soirée.
Pareillement.
Au revoir.
Au revoir.
Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts. De la grande ville ne me faisait pas peur quand tu étais là, mais les dés sont jetés, père, un père rouge ou noir. Je En amour, la loi, c'est comme à la guerre, le plus fort des deux reste le dernier, et notre amour si bon.
Nous devons déjà repartir. Filons. En région parisienne, une mystérieuse pharmacienne veut nous communiquer quelque chose.
Donc, je suis préparatrice en pharmacie. 40 ans que j'exerce dans cette profession et au même endroit. Donc, je travaille dans une grande officine de la région parisienne. Nous sommes une dizaine d'employés. Je suis donc toute la journée au comptoir, en relation avec les clients. Et mon parcours, voilà, c'est, j'ai commencé très tôt. J'ai pris la voie de l'apprentissage à 16 ans. Je suis allée en cours à Paris pendant 2 ans. Et après, les cours avaient lieu à Versailles. Donc, ça avait changé un petit peu. Et à 21 ans, j'ai passé donc mon diplôme de préparatrice. Et à la suite de ça, voilà, j'ai exercé mon métier dans la même officine. Alors oui, c'est vrai que le métier a beaucoup évolué parce qu'au tout début, bien, j'étais responsable du préparatoire où on faisait quasiment toute la journée des préparations et pour l'officine et pour les produits conseils et aussi pour les clients. Beaucoup moins de comptoirs du coup. Parce que c'était aussi une grosse officine et que l'on avait énormément de préparations à faire, dont les sirops, les suppositoires, les cachets, les gélules, les gouttes auriculaires, les shampoings, les gels douches. Enfin, la liste était assez longue et cela nous prenait beaucoup de temps. Après, j'ai pu aussi m'occuper des maisons de retraite pendant quelques années, tout en gérant aussi le préparatoire, parce qu'il y avait encore des préparations. Et à la suite de ça, après, j'ai fait beaucoup plus de comptoirs et je me suis occupée de la gestion de la parapharmacie, des commandes, des rendez-vous laboratoires et aussi beaucoup de conseils au comptoir aussi en para. Voilà. Oui, le métier de préparatrice, au tout début, c'était vraiment la préparation des médicaments, des produits, c'est-à-dire les sirops, la composition des sirops, la pesée de tous les produits chimiques, parce qu'on avait énormément de produits chimiques, la préparation donc des suppositoires de A à Z, hein, c'est-à-dire la réception des produits et aussi les pesées et la préparation du produit. Comme toutes les autres préparations, on a fait aussi beaucoup de préparations avec des stupéfiants, tels que la morphine, la codéine, parce qu'il n'y avait pas de spécialité suffisante et avec des formules adaptées. Donc on a aussi préparé beaucoup ces produits-là. On a aussi, à une époque, beaucoup de gélules pour les personnes qui voulaient perdre du poids. Donc, il y a eu énormément de prescriptions avec énormément de produits chimiques toxiques. Finalement, on était très peu protégés par rapport à la préparation de ces produits-là. Et puis, difficile de rentrer plus dans le détail de ce que l'on faisait, mais c'était essentiellement ça dans la journée. On faisait aussi beaucoup de conditionnement, parce qu'on conditionnait tout ce qui était éther, alcool, toutes les huiles camphrées, les alcools iodés, tout ça on préparait, hein. Donc on n'avait pas l'alcool iodé qui arrivait près dans un flacon, c'était à nous de préparer, donc manipuler l'iode, l'alcool, à des pourcentages différents, toutes les teintures d'iode. Oui, on réceptionnait effectivement aussi, on était responsable de la réception de tous les chimiques. Et ça représentait des armoires et des armoires de substances plus ou moins toxiques en fonction des tableaux, puisqu'à l'époque on appelait ça tableau. Maintenant on parle de liste quand on parle de produits chimiques toxiques.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer de A à Z qu'est-ce qui s'est passé par exemple vendredi ou une journée type de cette semaine et comment tu as ressenti
Alors,
les étapes, etc.
par rapport à la situation
Ou
actuelle,
voilà, par rapport à la.
ouais. Alors vendredi, je ne travaillais pas, mais je vais te dire lundi, puisque
Ouais.
lundi, c'était une journée noire et très chargée. Donc du coup, bien ce lundi-là, le matin, je ne travaillais pas, mais à partir de 14h, lorsque l'on est arrivé à la pharmacie, c'était déjà compliqué à gérer parce que, et bien évidemment, on n'avait pas les masques, donc il a fallu aller récupérer des masques au laboratoire pour pouvoir au moins se prémunir un petit peu. Pas les masques conformes, bien sûr, mais les masques classiques médicaux. À la suite de ça, on a ouvert la grille, on a fait rentrer les gens. Ils étaient quand même relativement disciplinés et ils respectaient les 1 mètre de distance entre eux, en tout cas. Mais pas par rapport à nous, pas du tout par rapport à nous, parce qu'ils étaient vraiment collés au comptoir. Il fallait même les faire éloigner parfois parce qu'ils s'approchaient dangereusement de nous. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre la situation actuelle. C'est difficile de leur faire entendre qu'il y a un réel danger de s'approcher les uns des autres. Donc ça, c'est un rappel à l'ordre, on va dire, de toutes les minutes presque, parce que lundi, on a eu donc 720 clients, on sert beaucoup, beaucoup de clients, on va dire, toutes les 2 à 3 minutes, on change de client. Donc ça a été très, très intense avec des cas plus ou moins compliqués, des gens à qui on avait du mal à trouver leurs produits, puisqu'on commençait déjà à avoir du mal à être livrés, les grossistes étant dépassés, on était quasiment livrés tous les 2 jours, sauf certaines urgences où là, les livreurs nous venaient spécialement nous les livrer, mais on est quand même livré de 50 caisses par jour, ce qui représente un nombre incalculable de boîtes, et ça ne rentrait plus dans les camions des livreurs. Donc, ils faisaient au mieux pour satisfaire les demandes. Donc voilà, lundi, ça a été de A à Z, de 14h à 20h, très, très intense. Et des gens qui arrivent même à la fermeture, ne se posant pas la question, la grille étant baissée, prenant leur temps pour choisir leur crème, n'imaginant même pas qu'on pouvait avoir envie de rentrer chez nous parce que la journée elle était compliquée, quoi. Voilà, la journée de lundi, par exemple.
Donc là, vous êtes encore en difficulté de trouver des masques, c'est ça?
Oui, on a été livré jeudi après-midi de 10 boîtes de 50 masques réservés aux médecins et aux infirmières, c'est-à-dire qu'on leur délivre 18 masques par médecin pour la semaine. Alors j'espère que ça, réellement, ça va changer parce que 18 masques pour un médecin, c'est tout simplement ingérable. Et dans ce lot de masques, il n'y a pas de masque pour les pharmaciens, en sachant qu'il y a une circulaire qui nous est arrivée, une alerte du Conseil de l'Ordre étant envoyée par l'assurance maladie. Le Conseil de l'Ordre nous l'a fait suivre. Les préparateurs n'auront pas droit au masque FPP2. Il n'y aura que les pharmaciens qui auront le droit de porter ces masques. Sauf que c'est complètement, enfin, c'est une aberration parce que nous sommes au comptoir, peut-être même plus que les pharmaciens d'officine. Donc voilà.
Et pourquoi ils n'ont pas tous ces masques?
Ben parce que c'est ils sont en fabrication ou alors parce que la plupart des masques ont été volés et revendus.
Et la plupart des gens qui viennent à la pharmacie, qu'est-ce qu'ils demandent comme type de produit?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de renouvellements anticipés.
Mmh.
Donc, tu veux, tous les gros traitements lourds, les gens viennent parce qu'ils ont peur de manquer. D'où le ça fait boule de neige, hein, d'où les grosses commandes, d'où les non-livraisons parce que trop de caisses. C'est beaucoup ça. Après, il y a aussi les gens qui viennent acheter leur peinture pour les cheveux parce que les coiffeurs sont fermés, les dames qui viennent acheter leur crème ou leur shampoing qui font leur stock aussi par rapport à ça. Il y a de tout, c'est très varié, c'est très très varié. Alors, il y a beaucoup de renouvellement, ce qui prend aussi beaucoup de temps, du coup.
Mais du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour de la parapharmacie. C'est quand même super bizarre.
Oui, oui, oui. Enfin, beaucoup, c'est pas la majorité, mais il y a des gens, oui, des personnes qui viennent acheter, qui font le tour, qui flânent. Il y a encore des personnes comme ça, oui.
Mmh.
Oui. Et qui sont aussi à la recherche du fameux gel hydroalcoolique que nous n'avons pas. Et pourtant, c'est placardé partout. C'est placardé à l'entrée de l'officine. Mais ils demandent quand même si, malgré tout, on n'aurait pas un gel, voilà.
Ouais, et ça, tu leur dis quoi à ces gens qui demandent du gel hydroalcoolique?
Alors, on leur a proposé, il y a 15 jours, une formule pour qu'ils le préparent eux-mêmes, une formule toute simple, hein. Mais on est vite tombé en pénurie de composants et pour la formule et de principes actifs. Donc, pour le coup, là, ils veulent une date. En fait, ils veulent une date de retour que nous n'avons absolument pas. Ils veulent une date pour les gels, pour les masques, pour les gants. Ça, on n'a pas, on peut pas leur dire. On n'en a pas pour nous, donc on peut pas, voilà, on peut pas leur donner de date. Mmh. Après, la formule était facile à réaliser, mais il y a eu les gens qui se sont rajoutés à cette formule, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont souvent sur Internet à la recherche de produits naturels. Donc, toutes les huiles essentielles ont été vendues aussi et achetées par toutes ces personnes, parce qu'il y a des gens très au courant des huiles essentielles qui sont antivirales. Donc, on a aussi été... démunis par rapport à ça, malgré les grosses commandes, parce qu'il y a eu des grosses commandes qui sont rentrées, mais vite parties.
Ouais, oui, c'est sûr. et toi, dans tout ton parcours dans la pharmacie, t'as, j'imagine, pas vécu des aussi grosses crises sanitaires comme celle-là. Est-ce que pour toi, c'était une surprise? Enfin, bon, évidemment, c'est toujours une surprise, mais toi, comment tu l'as abordé maintenant au début? Est-ce que tu minimisais le truc comme on nous a dit de le minimiser? Est-ce que toi, tu te sentais déjà concernée il y a quelques semaines de ça? Est-ce que tu sentais déjà les effets à la pharmacie des gens qui avaient peur? Comment tu abordais ça?
En fait, je trouve que ça a progressé très vite, même si ça fait déjà quelques semaines. On a été vite sous tension. On a été vite dans le... Tu vois, comme moi, je m'occupe de la para, de toute l'aromathérapie, du coup aussi de tous les tensiomètres, thermomètres et autres. Très vite, il y a 3 semaines, très vite, j'ai repassé des commandes parce qu'on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, moi, j'en ai pris conscience assez vite sans imaginer à quel point on arriverait au confinement, à quel point, tu vois, voilà, par rapport à ça, même si on sentait une pression, je trouve que c'est arrivé très très vite, tout ça est arrivé très vite. On n'a pas été dans la panique, mais vite sous pression, vite sous pression.
Et toi, comment tu, du coup, pour le confinement, tu coup, tu sors tous les jours, j'imagine, pour aller au
Non.
travail, non?
Ah oui, pour aller au travail, mais au-delà de ça, là, ça fait 3 jours que je suis à la maison. J'ai vraiment limité les sorties. Je suis allée une fois chercher le pain. J'ai pris du pain pour 4, 5 jours. Il n'est pas question d'envahir les rues, pas question d'envahir les boulangers, les grandes surfaces et tout ça. Enfin, non. J'essaie vraiment d'appliquer ce que je reproche aux gens. Je veux pas le mettre en pratique. Donc, je sors pour aller travailler, effectivement, et c'est tout. C'est tout.
Ok, trop bien tout ce que tu m'as dit. Et ton équipe, comment les personnes avec qui tu travailles, est-ce que les gens arrivent à gérer autant? Comment ça se passe en termes de morale d'équipe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes soudés? Est-ce que les gens commencent à avoir peur? Qu'est-ce qui se passe?
Non, enfin, il n'y a pas de panique. Je pense que tout le monde enfin, donne le meilleur de lui-même. Les personnes sont très impliquées. Dans l'équipe, on a beaucoup de jeunes qui prennent au sérieux tout ça, qui sont toujours dans le même conseil. Rien n'a changé par rapport à ça. Il y a juste l'agacement du non-respect de la population. Ça, c'est très pénible, mais sinon, l'équipe travaille de la même manière. Il n'y a aucun changement,
Aucun
non.
changement à part
Ouais.
dans la gestion des clients du coup.
Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Après, il y a aussi une chose qui m'est venue, mais c'est un petit peu en dehors de mon travail. Je me disais, je ne comprends pas qu'il ne soit pas mis en place aussi pour les infirmières, par exemple, quand elles font leurs courses, qu'elles n'aient pas la possibilité d'avoir une file coupe-file finalement avec la possibilité d'être servies avant les autres. Enfin, bon, il y a des idées à mettre en place. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas ça, qu'on ne laisse pas passer toutes ces personnes avant les autres parce qu'elles ont peu de temps, elles sont fatiguées, elles sont épuisées et elles font les courses comme tout le monde. Et comme je le disais l'autre jour, inadmissible qu'il n'y ait plus rien le soir dans les magasins pour toutes les personnes qui travaillent. C'est en dehors de mon travail, mais c'est une constatation. Ça rejoint l'égoïsme ambiant, quoi.
Parce que toi, quand tu rentres du travail, tu vas faire les courses et il n'y a plus rien du coup. Alors que tu as passé la journée à travailler.
Voilà, moi j'y vais une fois par semaine et ben, quand j'y suis allée l'autre soir, il y avait quasiment plus rien. Enfin, l'étage, bon évidemment les pâtes, rien du tout, l'huile, tout ça, il n'y avait plus rien dans les rayons. En tout cas, je ne suis pas allée dans une grande surface telle que Carrefour, Intermarché, j'estime que ça suffit, mais ils étaient dévalisés et pour eux, c'est compliqué aussi parce qu'ils remplissaient, ils essayaient de remplir au mieux les rayons, mais il y avait encore des clients dans la boutique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malmenés en ce moment, en tout cas.
Et toi, en tant que professionnel, est-ce que tu peux dire que vous avez été formé à gérer ce genre de situation? Enfin, est-ce que tu pensais avoir affaire à ce genre de situation une fois dans ta vie? Comment tu penses que vous avez été préparé, même ces dernières semaines, même en général dans tes études ou quoi?
Non, alors on n'a absolument pas été préparé. Et puis c'est quelque chose que l'on n'imaginait pas vraiment. On ne se projetait pas dans une épidémie telle que celle-ci, même si il y a eu auparavant même ne serait-ce que la grippe en fait, ne serait-ce que la grippe, on se rend bien compte aussi que la grippe, les gens ne prennent pas ça au sérieux, ne prennent pas ça réellement au sérieux. Enfin, en tout cas pour les personnes à risque. Non, on n'est pas préparé à ça, mais on a quand même le mental médical. Donc, je pense que chaque personne donne le meilleur d'elle-même. Quand tu es dans le médical, tu es confronté à des cas graves, douloureux. On est là pour écouter les gens. Donc, on a un passé d'analyse. Et du coup, je crois que ça nous aide aussi dans ces moments-là. Pour être proche des gens et même si on n'a pas de formation réellement. Alors effectivement, si on avait une formation, on serait peut-être encore plus performant, mais voilà, j'estime que quand chaque individu donne le meilleur de lui-même, déjà c'est bien. Déjà c'est bien.
Et ça, est-ce que tu as l'impression de pouvoir maintenant, avec le fait que, parce que tu dois gérer aussi la vente, la parapharmacie, et le fait que, en fait, une pharmacie, c'est un peu une entreprise quand même. Et est-ce que tu as l'impression que le métier a changé par là aussi? Est-ce qu'avant, il y avait autant de ce souci de vendre de la parapharmacie ou de vraiment être rentable?
On n'avait pas, en fait, il n'y avait pas la même demande déjà. Il n'y avait pas la même demande et on n'avait pas autant de laboratoires. Là, c'est parce que l'officine aussi s'est agrandie et que du coup, on a beaucoup plus de clients, du coup, beaucoup plus de stocks, beaucoup plus de choses différentes. Mais d'où l'intérêt aussi d'avoir des choses différentes, c'est aussi que le conseil est plus intéressant et que les gens sont très informés par Internet. Donc, ils nous demandent aussi beaucoup de choses, par exemple en aromathérapie, en phytothérapie, ils ont une exigence parce qu'ils sont informés par Internet. Donc, tout ça a fait que on a l'univers de la pharmacie s'est décuplé. De par la demande des gens et on a énormément de femmes qui s'occupent d'elles maintenant quand même malgré tout, qui s'intéressent aux nouvelles formules, qui sont très exigeantes parce qu'elles ont du coup aussi des connaissances par Internet, qui sont à la recherche aussi de derniers produits sortis, enfin voilà. Avant, on avait, moi quand j'ai commencé, je travaillais avec deux laboratoires de para. On avait Roc et Vichy. Voilà. Là, je m'occupe de 30 labos. Oh, c'est énorme. Oui, c'est vraiment c'est conséquent en termes de gestion.
Ah ben, c'est plus du tout le même métier, quoi.
Non, plus du tout. Ça n'a plus rien à voir. Je pense que après, peut-être que les femmes travaillant quasiment toutes, elles ont peut-être un budget qu'elles se réservent pour elles et du coup dépensent plus pour tous ces produits-là. Il y a ça aussi, une grosse demande aussi chez nous parce qu'on applique des petits prix. Donc, tout ce qu'elles achetaient peut-être en grande surface, comme nous, derrière, il y a un conseil, elles viennent peut-être un peu plus chez nous. Du coup, les ventes ont augmenté aussi. Et puis, tout ce qu'on peut mettre en place à côté. Enfin, voilà, je pense que tout ça a modifié, en tout cas pour notre officine. Hein. Mmh. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça.
Et comment tu penses que ça va évoluer? Comment tu penses que ton métier et toi, comment tu l'abordes, va évoluer durant les prochaines semaines? Dans quel état d'esprit tu vas être? Comment les gens vont réagir? Est-ce que tu penses que ça va changer?
Non, enfin, ça va changer. Je pense que les gens ne vont pas changer du tout au tout. Je pense que ça va calmer un petit peu parce que des stocks maintenant ils commencent à en avoir un petit peu en termes de médicaments, pas pour tous mais quand même pour une belle proportion de la population en tout cas chez nous. Ce que l'on souhaite c'est que le confinement soit un peu plus respecté, que les gens soient moins dehors aller chercher par exemple, une boîte d'ampoule de vitamine D qui n'est absolument pas indispensable ou une boîte de je ne sais quoi parce que ils font la queue assez longtemps, même si on est nombreux au comptoir. Oui, ils attendent entre 20 minutes et une demi-heure à l'extérieur, donc c'est quand même assez long. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui ont ce besoin de sortir, de parler parce qu'ils sont extrêmement seuls et changer leurs habitudes, c'est difficile. Donc, me projeter sur les semaines à venir, je ne sais pas. Je pense qu'on va continuer à travailler, nous, en tout cas, de la même manière. Après, on ne sait pas, hein, peut-être que dans l'équipe, des gens seront aussi contaminés. Donc, peut-être aussi en effectif réduit. Je crois qu'on s'adaptera au jour le jour parce que prévoir quoi que ce soit, c'est à mon avis impossible.
Parce que ouais, vous manipulez les ordonnances, les gens du coup les mettent dans la bouche.
Okay. Ouais, et puis les personnes qui n'ont pas de masque et qui éternuent sur le comptoir, même si on le passe, si on le nettoie régulièrement, on ne peut pas nettoyer le comptoir après chaque passage de personne, c'est pas possible, quoi. Et puis ils touchent à toutes les boîtes, en tout cas celles qui sont à disposition des clients. Donc c'est ça aussi, il faudrait que. Mais voilà, c'est, j'ai pas les solutions à toutes ces choses-là. En tout cas, faire en sorte qu'ils respectent cette distance. Oui, dès lundi, il va falloir mettre en place quelque chose. Ça, c'est certain.
Ok. Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose d'autre ?
Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Seulement que les gens soient respectueux des autres. Voilà, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, qu'il y ait un peu plus de bienveillance, d'attention et de respect, surtout de respect et peut-être aussi envers les personnes âgées, que, je ne sais pas, il y a une chaîne, que ce soit mieux organisé, que à la télé, ils arrêtent de nous rabâcher toujours les mêmes choses, qu'ils prennent des dispositions plus intelligentes par rapport aux personnes seules, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont seules et qui ne peuvent pas faire leurs courses. Et par rapport à tout ça, un lien de d'attention et de, je sais pas, enfin, j'ai pas toutes les idées, j'ai pas tout en tête, mais je pense que plein de gens ont de bonnes idées, il faudrait que ce soit mis en application. Voilà, ça c'est pas seulement dans mon travail, c'est au quotidien, c'est pour tout le monde.
Eh ben, merci Tata, je vais couper l'enregistrement.
Quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce, il bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Mare nero, mare nero, mare.
gente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. No.
La machine de 37.5 s'est donc arrêtée aux alentours de Rouen avec Julia, Chloé, un piano et Lucio Battisti. 37.5, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous reviendrons demain pour faire voyager ton esprit, donner des roues à tes oreilles, un moteur à ton cerveau, une courroie de transmission à ton... des essuie-glaces. Nous reviendrons demain, promis, en pleine forme. En attendant, passe une belle soirée, toi, auditrice.